Le numéro du printemps 2021 du magazine Continuité propose, entre autres, un dossier sur le patrimoine médical. Ravie d'en parler avec Josiane Ouellet, rédactrice en chef du magazine. Bonjour, Josiane.
Bonjour, Hélène.
Merci d'être avec nous en ce mardi. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème?
Oui, bon, ben, en fait, c'est sûr qu'avec le contexte de la COVID-19, tout ce qui concerne les épidémies, les maladies, les soins de santé, etc., c'est quand même dans nos préoccupations depuis un an, même plus qu'un an. C'est ça, en comité de rédaction, on s'est dit, ben, ça serait peut-être intéressant d'aborder la question, mais d'un point de vue positif, de voir la richesse de cet héritage-là qui est lié aux soins de santé, pas de s'attarder à l'histoire des pandémies ou des maladies, mais vraiment y aller avec l'héritage lié aux soins de santé, parce qu'on savait qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes à dire à ce sujet-là, des collections à faire découvrir, des lieux de mémoire aussi à faire découvrir. Alors, c'est un peu ce qui nous a guidés là, vers ce sujet-là.
Ah oui, c'est très riche. Le chemin de la guérison, bâtir pour soigner. Alors, il y a des liens à faire entre la médecine et la religion.
Oui, effectivement, même avec avec l'architecture. Donc, au départ, justement, comme la médecine était, c'était beaucoup les communautés religieuses et tout ça. Ce qu'on a découvert entre autres, c'est que les bâtiments étaient faits de telle sorte qu'il y avait l'hôpital d'un côté et le couvent, l'église de l'autre. Et tout ça se côtoyait de très très proche. Oui, effectivement. Dans notre histoire, pour tout ce qui est l'histoire médicale, les communautés religieuses ont été vraiment très, très importantes. Alors, on a essayé de rendre hommage.
Allez-y, continuez, Josiane.
Oui, bien, entre autres, en s'intéressant aux hôpitaux monastères qui ont été bâtis par les Augustines. C'est assez impressionnant là, de voir que les Augustines ont quand même construit 12 hôpitaux monastères au Québec.
Impressionnant, vraiment.
C'est tout un héritage. Là. Donc, oui. Ça, on voulait leur lever notre chapeau.
Et les Augustines aussi, qui ont contribué beaucoup au mieux-être des Québécois.
Oui, 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 ben oui, très, très impliquées là dans les soins de santé, puis même qui ont été innovatrices, puis qui à l'avant-garde, tu sais, c'était des religieuses qui étaient très ouvertes au nouveau développement, à la science et tout ça. Donc, entre autres, dans un des articles, on a une photo qui est assez spectaculaire d'un masque qui a été fabriqué par les Augustines pour expérimenter l'anesthésie au chloroforme en 1848. C'était vraiment quelque chose de très, très nouveau.
Ah oui.
Ça s'était fait juste une fois en Angleterre avant. Alors, elles étaient vraiment à l'affût là,
des pionnières.
Oui, c'est ça, exactement. Oui.
Puis, en tout cas, on apprend plein de choses. Entre autres, que les hôpitaux, il y a beaucoup de photos. Il y en a en couleur, il y en a en noir et blanc également. Les hôpitaux ressemblent à des demeures aristocratiques et on comprend mieux pourquoi en lisant le magazine.
Oui, ben en fait, à une certaine époque.
Oui,
là,
à fin 19e siècle.
Là. Oui, c'est ça. Donc, il y avait une volonté là de
d'attirer
les entre autres les bon ben c'était entre autres pour en fait pas les hôpitaux mais comme par exemple le pavillon Hershey là à l'hôpital Victoria, c'était le pavillon pour les infirmières et ça ressemble vraiment à une demeure cossue
d'un
carré doré et c'était pour valoriser la profession d'infirmière, pour rassurer les familles aussi. Laissez vos filles devenir infirmières, voyez. C'est quelque chose de noble et de. Alors, c'était un peu dans cette optique-là qu'on. Mais pour ce qui est des hôpitaux aussi, on voit que le prestige de la profession se reflétait aussi dans l'architecture des hôpitaux. Mm-hmm. Là. Puis ça, c'est pas juste à la fin du 19e siècle, là. Ça a continué par la suite. Puis ben, c'est ça, entre autres, ben, c'est ça dans l'entrevue que Anne-Marie Adams nous a accordée. C'est vraiment intéressant parce qu'elle nous donne. Elle illustre ça de plusieurs plusieurs façons. Là. Entre autres, on voit que l'évolution des pratiques médicales se reflète dans l'architecture, mais c'est pas toujours direct, là, tu sais, parce que comme elle nous disait, à la fin du 19e siècle, on a les hôpitaux pavillonnaires, là, comme l'hôpital Victoria, là, quasiment des châteaux. Là.
Oui.
À cette époque-là, on commence quand même à avoir à prendre connaissance de la propagation des maladies par les micro-organismes.
Oui, parce que longtemps, on opérait sans gants, sans masque.
C'est ça, exactement. Mais quand même, la disparition de ces hôpitaux pavillonnaires-là se produit pas tout de suite. On continue à en construire, même si les nouvelles façons de penser et de voir les choses dans le domaine sont déjà apparues. Là, ça mm-hmm. prend quand même un petit bout de temps avant que l'architecture s'adapte.
Se transforme ou s'adapte. C'est vrai, c'est parce qu'il y a eu tout l'épisode de la tuberculose qui a fait en sorte que les lieux pouvaient... Ben, construisait des galeries pour que les personnes malades puissent respirer le bon air.
C'est ça, on voyait ça comme ça, on se disait c'était le grand-père qui allait les guérir. Alors même après coup où une fois que les vaccins sont arrivés, tout ça. Même à ça, on continuait à dire « Ah, ben non, mais ça prend quand même des grandes galeries, ça prend quand même du grand air, même si ce n'était pas nécessairement un facteur de guérison là, en tant que tel. »
Oui. Vous parlez des infirmières, il y a aussi les médecins, les femmes médecins qui accèdent sur le tard, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ça n'a pas été en même temps que les hommes, là, l'accès aux écoles de médecine pour les femmes.
Non, effectivement, ça s'est fait un peu plus tard, mais là, on voit qu'aujourd'hui, par contre,
il y en a plus.
Ça semble s'être renversé, là, vraiment.
Oui,
Là, il y a plus de femmes, donc ça s'est fait tranquillement.
Il y a une femme qui m'a fascinée, Gertrude Duchemin, de la Corne en Abitibi.
Oui.
Vous nous donnez accès au dispensaire, même qu'on peut visiter quand on va pouvoir sortir des régions, là, aller en Abitibi, qui est en zone jaune, je crois bien. Son dispensaire est ouvert au public.
Oui, exactement. Et puis, c'est ça, c'est un des lieux de mémoire là, qu'on voulait faire découvrir. Mais c'est vraiment fascinant parce qu'ils nous font découvrir le métier d'infirmière de colonie, là, d'infirmière de dispensaire.
Oui.
Et on voit que cette femme-là faisait de tout. Là.
Elle est impressionnante. Elle a mis presque 3000 bébés au monde.
Oui, c'est ça. Donc, vraiment, là, puis elle était quand même audacieuse. Là. Je me souviens, je pense qu'on parlait à un moment donné de la contraception où elle se moquait un peu de ce que le clergé disait.
Oui,
en tout cas,
je
me souviens plus de tous les détails. Mais
elle était un peu iconoclaste.
C'est quelqu'un qui avait du caractère et même qui une fois que le dispensaire a été fermé, a quand même continué à jouer son rôle pendant encore des années, n'a pas voulu abandonner sa communauté. C'est vraiment intéressant de découvrir son histoire. Puis effectivement, ce qu'on voulait aussi, c'est inviter les lecteurs à aller sur place, à aller visiter ces lieux-là quand on va enfin pouvoir le faire.
Oui,
donc,
justement, avec les pages consacrées au patrimoine médical, il y a le monastère des Augustines dans le Vieux-Québec que vous nous présentez, que plusieurs personnes connaissent, là, mais auquel on peut avoir accès ou qu'on va pouvoir visiter un jour. Là. Et le musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, c'est drôle parce qu'il y avait un reportage hier au Téléjournal de Montréal. C'est un lieu qui va devenir ouvert au public. On invite même le public à donner des idées quoi faire avec ce lieu qui est grandiose. On veut que les gens s'impliquent là, dans l'espèce de remue-ménage là, pour donner une nouvelle vocation à cet endroit. Oui.
C'est ça, à l'Hôtel Dieu de Montréal.
L'Hôtel Dieu, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Le musée des Hospitalières, lui, bien évidemment, est déjà
oui,
ouvert.
Oui, est un musée. C'est vrai.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui.
Mais oui, effectivement, l'Hôtel Dieu, c'est bien. S'il y a des initiatives là, pour lui trouver
une nouvelle vocation.
C'est ça, assurer sa pérennité. Puis la meilleure façon, effectivement, c'est d'impliquer les gens, que les gens se l'approprient pour que ce lieu-là continue de vivre. Oui. Effectivement.
Bon, vous parlez du musée Armand Frappier, le musée médical Maud Abbott de l'Université McGill. Bref,
oui.
Vous faites le tour de la question en long et en large. Si on veut en savoir si on veut avoir l'information juste et riche sur le patrimoine médical, mais je recommande aux gens de se procurer cette revue Continuité qui pour le numéro du printemps là, 2021, qui est sorti quand même depuis quelques semaines, Josiane.
Oui, c'est ça, ça sortait à la fin du mois de mars.
Oui. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on trouve à part le dossier médical? Il y a d'autres sujets que vous proposez là, à propos d'un orgue qui a toute une histoire?
Oui, effectivement, ça c'est assez savoureux comme histoire de sauvegarde là. Donc c'est l'Opus 9. En fait, c'est le plus ancien orgue Casavant qui est encore dans son état d'origine. Et ben pendant longtemps, cet orgue-là était dans un restaurant. donc les clients, bon, certains savaient peut-être que c'était un orgue qui avait une grande valeur patrimoniale et historique, mais d'autres devaient même pas s'en douter. Et puis vraiment, il y a eu une démarche là, incroyable pour le restaurer, lui trouver un nouveau lieu là, qui soit vraiment à la hauteur là, pour le mettre en valeur et tout ça. Donc maintenant, il est dans la chapelle de la maison mère des adoratrices du Précieux Sang à Saint-Hyacinthe. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment une super démarche. Puis l'histoire de cet orgue-là est quand même assez particulière. Là. Donc, on en apprend un peu plus sur, oui. Sur sa fabrication, sur son parcours.
Les frères Casavant.
Oui, c'est ça, exactement. Oui. Donc, ça, c'est assez fascinant aussi.
Et la renaissance du magasin Entrepôt Rodier, les bureaux de Urbania, ils sont, ça, je l'ai appris là, en lisant sur le dossier, sur cette actualité-là. Donc, c'est dans le Vieux-Montréal, un article écrit par Mélissa Mars et Nathalie Laliberté. Bref, un numéro riche, encore une fois.
Puis, je vous remercie.
Le prochain sujet, est-ce que pour le prochain numéro, est-ce que j'imagine que vous êtes en train de travailler là-dessus?
Oui, effectivement. Alors, c'est un beau numéro, c'est un beau sujet pour un numéro estival, c'est le patrimoine et l'alcool.
Oh.
Donc, oui, ben, en fait, c'est un peu parce que en comité de rédaction, on se disait, on voyait vraiment l'engouement que suscitaient les microbrasseries, les microdistilleries, la consommation locale et tout ça. Et puis, vraiment, on remarquait que il y a beaucoup de ces entreprises-là qui s'ancrent dans l'histoire, dans le terroir de leur coin de pays, pour qui c'est important de vraiment référer au passé, de prendre des produits locaux pour faire leurs produits, etc. Et puis même qu'il y en a beaucoup qui sont installés dans des bâtiments anciens. Donc, ça a été un peu le point de départ. On s'est dit, on voulait explorer ce phénomène-là là, de quand même des jeunes entreprises qui vraiment ont quand même donné à leur en fait s'ancre quand même là, dans l'histoire et dans le patrimoine. Puis, évidemment, ben, on en profite aussi pour revisiter ben, l'histoire de la production et de la consommation d'alcool au Québec, voir certains lieux aussi qui témoignent, par exemple, de la prohibition.
Mais on aura l'occasion de s'en parler, voilà. J'en suis certaine, Josiane. Le numéro sort quand?
Ça va être le 24 juin.
Le 24 juin, bon.
Au moment où 75% de la population est supposée être vaccinée, oui. un premier vaccin, nous, on va sortir notre numéro d'été.
Pour ceux et celles qui vont pouvoir lever un verre à cela, ben, que ce soit de l'alcool ou pas, là,
oui.
On va le faire.
En espérant que ce soit possible bientôt.
Oui. Juste avant de vous quitter, ben, je voulais vous parler aussi, que vous nous parliez de la nouvelle version numérique du magazine Continuité. Les textes qui seront accessibles aux personnes non-voyantes et malvoyantes, c'est une bonne idée. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ben, c'est ça, on voulait, là. En fait, c'était pas très compliqué. Alors, on s'est dit, ben oui, il faut absolument aller de l'avant avec ça. Oui, ben en fait, c'est un projet auquel on rêvait depuis quand même un bon bout de temps. Là. Ça fait quelques années là, qu'on y réfléchit, qu'on le définit, tout ça. Et donc, ben, on a profité de la pandémie pour plonger,
bon.
Pour aller de l'avant avec ça. Alors, on a travaillé fort pendant un bon 6-7 mois pour lancer vraiment une version numérique. En fait, ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir une version numérique du magazine qui soit agréable à consulter, quel que soit l'appareil utilisé. Parce que jusqu'à présent, notre version numérique, c'était un PDF du magazine papier. Alors, ouais. C'est sûr que lire un PDF sur un téléphone cellulaire, c'est pas l'idéal.
C'est pas l'idéal, c'est sûr.
Donc, on voulait vraiment que les gens puissent lire le magazine sur leur cellulaire, leur tablette, leur écran d'ordinateur. Alors, je pense qu'on est arrivé avec quelque chose de pas mal du tout, de très convivial. Puis, évidemment, un peu comme dans le magazine, là, on met beaucoup l'accent sur le visuel, donc pour rendre ça attrayant et dynamique. Alors, là, c'est sûr que pour l'instant, il y a juste notre numéro de printemps là, qui est disponible en version numérique comme ça. Mm-hmm. Mais à mesure que les nouveaux numéros vont sortir, ben on va avoir encore plus d'offres pour nos lecteurs. Puis ce qu'on voulait faire aussi, c'est de pouvoir permettre aux gens qui veulent juste acheter un article de pouvoir
seulement qu'un article. Oui.
Donc, ça, on trouvait ça important parce que là, tout ce qu'on avait à leur proposer, c'est bon, ben, vous voulez lire l'article, ben, achetez le magazine au complet. Oui. Alors, là, maintenant, les gens peuvent y aller vraiment à la pièce selon leur intérêt, selon ce qui les attire comme sujet.
Mm-hmm. Alors, un peu comme les gens qui achètent la musique pièce par pièce.
Oui, ben un petit peu comme ça, parce qu'on s'est dit, ben on va peut-être réussir à aller chercher justement
un autre public,
encore davantage de magazines comme ça.
Une autre clientèle. Le magazine est toujours disponible en kiosque. Et si on va avoir plus d'informations là, sur le magazine format numérique, on va sur votre site Internet?
C'est ça exactement, magazinecontinuité.com. Vous allez avoir tout à cette adresse.
OK. Bien, Josiane Ouellette, rédactrice en chef du magazine Continuité, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Passez une belle journée, puis on se reparle de votre magazine sur l'alcool en été. Ça sera l'été.
Je vous remercie infiniment. Bonne journée à vous aussi.
Merci.